Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. En France, l'alcool reste la seconde cause de mortalité évitable après le tabac, avec 41 000 morts par an, un chiffre considérable. Mais si la consommation d'alcool semble diminuer en général, eh bien celle des femmes augmente. Selon des estimations de 2018, entre 500 000 et 1,5 million de femmes souffriraient d'alcoolisme en France. Un chiffre sans doute sous-estimé, car si les hommes boivent à plusieurs, eh bien les femmes le font en solitaire et en cachette. Difficile donc d'avoir des chiffres précis. Les causes de cette dépendance sont multiples, mais concernent essentiellement les injonctions qui pèsent sur elles, le stress, le surmenage, les responsabilités, bref, le poids de la charge mentale. D'ailleurs, les femmes malades de l'alcool ne sont pas celles que l'on croit. L'alcoolisme au féminin concerne plus les femmes aisées et diplômées à haut niveau d'instruction, soit l'inverse du tableau alcoolique masculin. Et les différences ne s'arrêtent pas là. Le regard que l'on porte sur un homme qui boit, un bon vivant, est bien différent de celui qu'on porte sur une femme qui boit, une mauvaise femme et ou une mauvaise mère. L'alcoolisme des femmes est encore tabou, pourtant les conséquences sur leur santé physique et psychique sont nombreuses et semblables à celles des hommes. Cirrhose hépatique, hypertension artérielle, isolement, dépression. Il est temps aujourd'hui de sortir de ces jugements de valeur, de cette morale, de ces tabous, pour permettre aux femmes d'avoir accès aux soins. Car derrière une femme qui dérape, il y a presque toujours un mal-être ou une blessure de l'intime.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Laurent Carilla, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous êtes psychiatre, spécialiste en addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, c'est en région parisienne, porte-parole de l'association SOS Addiction et auteur de L'alcoolisme au féminin, En finir avec les tabous sans sortir, aux éditions Le Duc. Alors derrière une femme qui dérape, il y a presque toujours un mal-être ou une blessure de l'intime. Ce sont des propos du docteur Fatma Bouvet, hein, de la Maisonneuve, qui dirige un service d'addictologie, dédiée aux femmes. C'est ce que vous constatez également?
Oui, complètement. En fait, la question de l'usage excessif d'alcool ou même de l'addiction à l'alcool chez la femme est plutôt un phénomène qui s'installe secondairement pour calmer, soigner une souffrance qui est psychique, en fait. Il y a souvent associé des troubles anxieux, des troubles dépressifs qui sont pas traités ou peu traités, et l'alcool vient comme un pansement psychologique régler certaines choses, et en fait au final on s'aperçoit que ça passe pas du tout et que ça fait installer une seconde maladie, si vous voulez. Il y a une première maladie qui est la dépression et la seconde devient la maladie de l'alcool.
Ce n'est pas festif comme avec l'alcoolisme des hommes, c'est ça?
Si vous voulez, au début tout est festif, hein, c'est pas, il y a pas de différence, et de plus en plus maintenant avec les générations actuelles, c'est festif, c'est convivial, c'est un truc cool, c'est un moment de déstress après le travail, après une journée harassante, enfin voilà, ou même pour décompresser pour n'importe quoi. Mais c'est vrai que pour certaines qui sont vulnérables, ben ça bascule. Alors que chez l'homme, ça va être très primaire, on va dire, l'homme va avoir un problème d'alcool, ça va être le problème principal. Chez la femme, ça va s'installer plutôt sournoisement et secondairement.
En 2020, est-ce que vous considérez que l'alcoolisme au féminin est toujours tabou?
Complètement, toujours tabou. C'est toujours un problème un peu méconnu. Il y a une insuffisance encore en 2020 de repérage de cette question chez les femmes. Et c'est quand même hallucinant de penser qu'en 2020, on a avancé, si vous voulez, les outils pour repérer, les questions à poser en consultation, mais c'est pas fait de manière encore systématique, quoi.
Mais vous pensez vraiment qu'on en est encore à un homme qui boit, c'est un bon vivant, une femme qui boit, c'est une moins que rien, finalement? C'est encore
non,
ça?
Un peu moins qu'avant quand même. Mais quand on est dans la femme, dans l'image de femme qui a cette pathologie addictive avérée, c'est-à-dire avec des conséquences où l'alcool est présent quasiment tout le temps, etc., on est quand même dans... c'est pas une très bonne femme, quand même. Ça reste un peu, mais c'est moins qu'avant. Si vous voulez, avant, c'était En 1900, si vous voulez, c'est une clocharde, c'est une prostituée, elle ne peut pas être mère, c'est pas une femme. Là, c'est un petit peu moins, mais il y a quand même cette image stigmatisante qui persiste.
Quelles sont les spécificités de l'alcoolisme féminin? Dans votre livre, vous parlez de la métaphore de l'arbre avec ses branches et ses racines.
Non, si vous voulez, la métaphore de l'arbre, c'est plutôt pour expliquer aux gens ce que c'est l'addiction en réalité.
C'est très
C'est-à-dire
complexe.
que, ouais, c'est un phénomène complexe. Et on voit bien, c'est-à-dire que si vous voyez, vous êtes dans la rue, vous vous promenez, vous regardez un arbre avec des feuilles ou sans feuilles, moi, je métaphorise les choses en disant chaque branche est une substance ou un comportement. Donc, il y aurait une branche alcool. Mais on sait très bien que cette branche, elle vit avec des racines. Et il y a énormément de racines, qui sont des racines de développement personnel, des racines génétiques, des racines émotionnelles, des racines traumatisantes, des racines psychologiques. Enfin, l'exemple est il y a plein de racines. Et en fait, c'est pour dire que, ok, on voit la branche émergente, mais il faut traiter les racines pour traiter la branche.
Sommes-nous tous égaux devant l'alcool?
Non, personne n'est égaux devant aucune substance, en fait.
Et
Personne.
l'organisme des femmes élimine moins rapidement l'alcool que celui des hommes, ça c'est aussi un fait ou pas?
Bah, si vous voulez, à âge égal, à quantité égale d'alcool, la femme va moins bien encaisser, l'alcoolémie de la femme va être plus élevée. Et ça s'explique par des différences physiologiques, si vous voulez, des différences métaboliques, tout simplement des questions de masse grasse, des questions de masse musculaire. Il y a aussi des fluctuations hormonales qui peuvent jouer, comme les œstrogènes. Ces œstrogènes peuvent interagir avec certaines régions du cerveau. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est très multifactoriel, mais clairement, à même quantité d'alcool, une femme réagit différemment qu'un homme et c'est physiologique.
Alors, dans votre livre, on apprend aussi que 12% des femmes cadres ont un usage à risque de l'alcool, soit le plus fort pourcentage de consommation à risque. C'est un chiffre plus élevé que chez les ouvrières et les artisanes, et les
Ouais,
artisanes,
complètement.
pardon. Est-ce que ça vous a surpris et comment vous l'expliquez finalement?
C'est une étude qui a été réalisée donc sur différents milieux socio-économiques et moi ça m'étonne pas en fait. Ça m'étonne pas parce que ce qu'on s'aperçoit, on aurait tendance à dire toujours hein, avec tous ces clichés, cette stigmatisation de la maladie addictive où on dit ouais l'alcool tu peux t'arrêter quand tu veux, c'est pas une maladie, mais on est dans la maladie. Et ce qu'on voit dans les consommations excessives, c'est que finalement ces femmes cadres, ces femmes de haut niveau socio-économique maintiennent une espèce d'image faussée longtemps. Et nous, on aurait tendance à se dire, bah, celles qui vont avoir des problèmes avec l'alcool, c'est celles qui n'ont pas trop d'argent, qui sont dans des conditions sociales précaires, etc. Or, ce n'est pas le cas. Mais quand même, je veux le dire, c'est l'alcool touche toutes les classes sociales et toutes les femmes.
Et ça, selon vous, c'est un effet pervers de la charge mentale. Les femmes font quasiment tout dans les ménages, elles ont des responsabilités énormes.
C'est clair que la charge mentale joue un rôle, on va pas tout mettre sur la charge mentale, mais la charge mentale joue un rôle majeur. Il y a aussi les pathologies psychologiques sous-jacentes qui jouent un rôle majeur. Il y a aussi comment on se construit, comment on se développe, comment on réagit, comment est-ce qu'on a du déni ou pas. Tous ces éléments jouent quand même. Hein. Et il y a aussi quand même, il faut le dire, hein, le marketing alcoolier qui joue un rôle aussi important quand même. Hein. C'est un facteur environnemental qui est non négligeable.
C'est-à-dire qu'ils ont ciblé les femmes,
Ah ouais.
définitivement?
Ah ouais, c'est ciblé, on voit bien les pubs, on voit bien, ils utilisent les réseaux sociaux, enfin tout est fait par tranche d'âge, tout est très très bien ciblé, hein. On en est presque au neuromarketing, c'est-à-dire que même les images d'alcool ou les images de femmes qui boivent de l'alcool sont colorées pour un peu attirer le cerveau, enfin tout est très très bien ciblé, hein.
Et pour chaque catégorie, les jeunes, les plus vieux?
Ouais, complètement. Il y avait tout ce qui était prémix pour les plus jeunes, les boissons très sucrées, alcoolisées déjà toutes faites. Il y a la republicité de bières, de petites bières, de bières 0%. Il y a toutes ces variations de vin rosé avec des goûts sucrés. Et c'est très bien, hein, le goût sucré, ça masque l'effet de l'alcool quand même. C'est pour ça qu'on va boire, 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 mais l'alcoolémie, elle augmente.
Oui, et l'alcool chez les femmes seniors est pour vous un
Ouais.
problème dont on parle peu.
Alors
C'est
ça,
vrai qu'on en
on n'en
parle
parle
peu.
pas. On n'en parle pas. On a l'impression que les femmes qui partent à la retraite ne font plus rien en fait. Or, c'est une hérésie totale. Je veux dire, il y a des femmes, et il faut le repérer. Il y a des femmes qui justement partent à la retraite Et c'est une retraite qui peut être mal vécue, mal préparée, ou bien même des changements, on va dire, classiques de cette retraite qui font qu'on va un peu basculer vers un peu de tristesse, d'anxiété, etc. Et puis, l'alcool, du coup, va devenir un pansement anti-retraite, quoi. Et moi, j'ai soigné, et je soigne encore, des femmes de 65, 70 ans qui ont un vrai problème avec l'alcool.
Mais on se rend compte que énormément de femmes finalement passent en dessous des radars. Du coup, vous pensez que le chiffre sur l'alcoolisme des femmes est sous-estimé? Est-ce que ça pourrait être beaucoup plus important qu'on l'imagine?
Bon, on estime à 1 million, 1,5 million, hein, de buveurs complexes. Ouais, je pense que c'est sous-estimé complètement, ouais, complètement sous-estimé. Il faudrait avoir des interrogatoires et des données beaucoup plus précises.
Alors, restez avec nous, docteur Carilla. Notre reporter Charlie Dupuis a rencontré Marie, 50 ans, prise en charge dans un centre d'addictologie depuis un an et demi.
J'ai toujours vu, durant mon enfance notamment, j'ai toujours vu des personnes autour de moi consommer de l'alcool. Alors que ça a été problématique pour certains membres de ma famille, comme ma grand-mère maternelle qui en est décédée d'une cirrhose. Tous les jours, quand mon père rentrait du travail, il était cadre sup, il avait un poste à responsabilité, il rentrait tard. Et première chose, apéro. Toujours du vin à table. Moi, bien qu'ayant toujours vu de l'alcool à la maison, j'ai pas le souvenir d'avoir bu avant 17 ans. À 18 ans passés, j'ai eu ma première cuite. Je suis sortie avec une amie dans un bar et on a consommé un truc immonde de liqueur de whisky. Enfin, et j'ai été mais malade, 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 malade. C'est des personnes qui étaient présentes au bar qui ont dû me ramener tellement j'étais ivre morte. Et le lendemain, quand j'ai raconté à mes parents, j'étais dans un très très sale état. Ça a fait rire tout le monde. C'était plus comme si j'avais passé un baptême. Donc ça a complètement dédramatisé cette consommation mauvaise. Tous mes amis, on a commencé par se retrouver après la fac et on consommait de l'alcool. Tous mes amis consommaient de l'alcool à chaque fois qu'on se voyait. Et c'est suite à une rupture bien plus tard, c'est suite à une rupture amoureuse. Alors j'avais 30 ans, j'ai fait une grosse, grosse dépression. Avec hospitalisation. Et en rentrant chez moi, là, j'ai commencé tous les soirs à aller m'acheter une bouteille de vin en mettant en place des stratagèmes pour ne pas croiser la même caissière qui m'avait vue la veille pour pas qu'elle se dise, mais je l'ai vue hier. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème avec l'alcool parce que je cachais mes consommations. J'en ai parlé autour de moi et tout le monde autour de moi dédramatisait. Donc je continuais sans me rendre compte que les doses augmentaient. Je me souviens avoir essayé d'en parler à un médecin généraliste, certes, c'est moi qui lui en avais parlé et insisté pour faire une prise de sang, sinon il ne la faisait pas, mais non, ça va, ça va. Et il n'a pas questionné plus que ça mon rapport à l'alcool. C'est un peu mon compagnon, l'alcool. C'est celui que je retrouve le soir, quoi. C'est pas du tout une consommation festive. C'est mon truc à moi, toute seule dans ma cuisine. Mais je ne bois plus en public. Je décline les dîners. Je sais que je peux avoir dans mon ivresse un comportement qui sera pas adéquat à ce qu'on attend de moi ou ce que je m'impose. Et dans mon secteur d'activité, il y a des événements mondains et je suis obligée d'y aller. Et là, c'est un grand, grand contrôle.
Comment vous faites dans ces cas-là?
Je résiste. Je sais qu'il y a de l'alcool qui m'attend à la maison. Une bouteille de vin par jour, tous les soirs. Ça me rassure.
Quel est le déclic qui vous donne vraiment envie de consulter, d'être prise en charge?
C'est à partir de 40 ans que j'ai commencé à réaliser qu'il fallait faire quelque chose. Une des premières choses qu'on m'a demandé quand j'ai consulté dans plusieurs endroits, c'est qu'est-ce qui vous ferait arrêter? Et moi, c'était pas la crainte de tomber malade, malheureusement. C'est que comme j'élève seule mon enfant, c'est que je devais l'accompagner le plus longtemps possible notamment matériellement, et qu'à continuer comme ça, j'allais peut-être finir par perdre mon boulot, parce que j'allais plus me réveiller, plus être présente au rendez-vous.
Et depuis combien de temps vous êtes suivie ?
1 an et demi. C'est un long cheminement, et les expériences précédentes ont été ponctuées d'arrêts, et ça fait seulement 1 an et demi que ma prise en charge est régulière, c'est-à-dire hebdomadaire, par un médecin et un psy. Pendant le confinement, elle ne s'est pas arrêtée, et que je m'y accroche vraiment comme à une bouée. C'est des moments très précieux, ça, de pas se sentir jugée, et que ce qu'on vit, c'est une maladie, c'est une épreuve, et c'est pas une honte à cacher à tout prix et jusqu'à la fin de sa vie. Je peux pas ne boire qu'un verre. Un jour, j'arrêterai complètement.
Des propos recueillis par Charlie Dupio. Une réaction, docteur Laurent Carilla, à ce témoignage ?
C'est un témoignage déjà qui est touchant, et c'est un témoignage comme les témoignages qui sont dans mon livre, L'alcoolisme féminin. Vous prenez
exactement.
Les témoignages de Nathalie, vous prenez les témoignages d'autres personnes, de Mimi, etc., ou de Daniel. C'est exactement le même modèle, mais avec d'autres histoires, en fait. Ça démarre un peu festif, et après le circuit s'emballe, après ça devient solitaire, ça devient en cachette, il y a la honte, la culpabilité, il y a des difficultés à être pris en charge, et après, il y a un moment où on arrive à être pris en charge et s'accrocher à un système de soins qui doit être, comme elle l'a souligné, à plusieurs. Il n'y a pas une seule personne qui va prendre en charge la patiente en question.
Mais alors ça, on va y revenir, parce que là, vous venez de résumer d'un coup l'ensemble de l'émission, finalement. Je voulais vous demander, justement, comment savoir qu'on passe d'une consommation récréative à une consommation addictive. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Vous parlez des 5C.
Oui, les 5C, c'est un moyen mnémotechnique facile pour que les gens comprennent. Mais j'utilise maintenant aussi à la faculté, auprès des étudiants. 5C, c'est quoi ? C'est à partir de 12 mois, si on remplit 5C, on est dans un problème addictif. Donc le premier C, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire on n'arrive pas à se contrôler, à ne pas boire. Le deuxième C, c'est un usage continu. Donc c'est régulier, quoi. Le troisième C, c'est un usage chronique. Ça fait un petit moment, donc plus 12 mois, c'est, on est dans le chronique. Le quatrième C, c'est un craving. Et le craving, c'est un mot en anglais. Craving veut dire l'envie irrépressible de consommer. Vous voyez, c'est une envie à crever de boire, quoi, dans n'importe quel type de situation. Et le dernier, c'est on continue malgré les conséquences sur la santé physique, psychologique et sociale. Quand on remplit ces 5 C, on n'est plus dans l'usage récréatif, on est dans un usage addictif.
Et c'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que être dans une famille où l'on boit incite forcément à la consommation, comme le témoignage que l'on vient d'entendre, finalement ?
C'est un élément environnemental.
On dédramatise.
Pardon ?
Ou on dédramatise finalement au niveau familial ?
Oui, alors si vous voulez, dans l'installation d'un processus addictif, il y a notre développement personnel, comment notre puberté s'est faite, etc. Il y a nos traits psychologiques, il y a comment notre cerveau fonctionne sur le plan métabolique, etc., sur le plan physique, sur le plan physiologique. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. L'addiction, pour qu'elle s'installe, il faut que tous ces facteurs-là soient perturbés, en fait. Donc, si on prend que le cas de ça boit dans la famille, c'est un facteur environnemental, et ça peut être dans ça boit dans la famille, il y en a qui ont des problèmes d'alcool, donc un problème génétique. Donc, c'est deux facteurs, si vous voulez. Il faut qu'il y ait les autres facteurs qui interviennent. Mais c'est clair que un sujet qui est jeune et qui voit sans cesse les grands boire, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'imitation. Et le jeune, quand il va être plus grand, il va dire « moi, je vais boire comme eux, il n'y avait pas de problème. » quoi.
Il y a souvent dans l'alcoolisme féminin des blessures de jeunesse, on en a un petit peu parlé au début de cette émission,
oui.
Mais avec des choses parfois très graves, hein, comme des violences ou des viols.
Oui, tout à fait, il y a des traumatismes sexuels, et ça aussi, ou de l'abus sexuel, de l'abus physique, de l'abus même moral. Hein. Mais ça, ce qui est important, c'est qu'il faut le repérer chez les femmes.
Et donc qu'elles aillent consulter.
Chez les hommes. Oui, non, mais quand elles consultent, si vous voulez, pour ce problème d'alcool, alors peut-être pas la première fois, mais il faut, dans l'histoire de la maladie, essayer de repérer, comme je disais, les racines de l'arbre de tout à l'heure, les racines traumatiques. Il faut aller rechercher ces traumas.
Et quand on sombre dans l'alcoolisme, que se passe-t-il dans le cerveau, docteur Carilla ?
Il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement, si vous voulez, de base. On a, quand on mange, quand on mange, quand on a faim, quand on boit, quand on a soif, ou quand on a envie d'avoir un rapport sexuel et on l'a, il y a un système cérébral qui s'active. Il y a un premier système qui est le système de récompense. C'est le truc très basique, c'est j'ai faim, je mange. Mais nous ne sommes pas des animaux, donc il y a d'autres systèmes qui interviennent. Donc il y a un système qu'on appelle le système de la mémoire et de l'apprentissage, qui est un deuxième système cérébral. Donc on apprend depuis qu'on est petit, on mémorise des choses sur manger, c'est bien, etc. Il y a un troisième système qui s'appelle le système de la motivation. Le système de la motivation, c'est on va changer notre comportement quand on a faim, par exemple. Et le dernier système, c'est le système qui contrôle tout chez nous, l'homme et la femme. C'est le système du contrôle. C'est-à-dire qu'on va réagir de manière adaptée. C'est-à-dire que vous avez faim, vous allez manger, mais vous allez vous arrêter à un moment. Donc ces quatre systèmes en situation physiologique fonctionnent ensemble. Quand vous êtes dans une addiction, et on prend l'alcool ici, c'est la question aujourd'hui, eh ben ça désynchronise ces circuits, c'est-à-dire que les circuits ne sont plus ensemble. D'un côté, vous allez avoir le système de récompense et de mémoire qui vont agir ensemble, isoler le système de la motivation et isoler le système de contrôle. Et donc cliniquement, qu'est-ce que vous avez? Et comportementalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelqu'un, quand il veut boire, eh ben il va boire parce qu'il veut que de la récompense. Qui sait que les premières fois qu'il a bu, ça lui fait du bien, de l'alcool. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de contrôle. Donc on est dans la maladie.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons d'alcoolisme au féminin avec notre invité, le docteur Laurent Carilla, psychiatre spécialiste en addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. C'est en région parisienne, porte-parole de l'association SOS Addiction et auteur de L'alcoolisme au féminin, en finir avec les tabous, s'en sortir, aux éditions Le Duc. Alors, l'alcool fait partie des 5 drogues les plus addictives, avec l'héroïne, la cocaïne, la nicotine et les barbituriques. Le cannabis n'est que 11e dans ce classement. Mais l'alcool est la plus dangereuse, docteur Carilla, plus dangereuse que le crack même?
Non, c'est complexe. Si vous voulez, l'alcool, la drogue là, qui tue le plus, c'est le tabac déjà. Et l'addiction la plus complexe, c'est l'addiction au tabac. L'alcool, c'est la deuxième cause de mort évitable dans le monde. Elle est souvent couplée au tabac. Après, dans les gradations, si vous voulez, la cocaïne et le crack, ça se rapproche plus du tabac. Donc, mais j'ai pas envie de dire qu'il y en a une plus que l'autre. Mais vraiment, vraiment, si on devait critériser les choses, c'est le tabac est au sommet des choses, quoi.
Alors, au fur et à mesure que l'usage d'alcool augmente chez la femme, eh bien, les risques pour la santé augmentent également. Ils sont souvent plus terribles que pour les hommes. Pourquoi et quels sont les principaux risques pour les femmes?
Pour les femmes, il y a tout ce qui est il y a 17% de cancers du sein qui sont liés à des consommations excessives d'alcool. Donc il faut quand même prendre cette notion en compte, même si c'est pas la seule cause de cancer du sein, l'alcool. Il y a des problèmes aussi d'hypertension artérielle qui sont un peu plus sévères, de problèmes cardiaques qui sont un peu plus sévères.
Risque d'hypertension artérielle, c'est multiplié par 2 à partir de 3 verres par jour, c'est ça?
Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est plus élevé. Il y a des différences physiologiques et des altérations qui sont même métaboliques. Il y a plus de risques d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Ça joue quand même, c'est quand même une cause de mortalité aussi évitable. Donc il y a ces éléments-là qu'on retrouve. Après, il y a des atteintes du foie qui peuvent être aussi un peu plus sévères chez les femmes.
Et sur le plan social, les conséquences sont également dramatiques, docteur Carilla?
Ah ouais, elles sont dramatiques. Si vous voulez, les femmes, on a de la chance de les avoir. Mais elles, le problème, c'est que quand elles sont dans la maladie liée à l'alcool, elles sont complètement stigmatisées à la différence de l'homme. C'est-à-dire, c'est un homme qui a un problème d'addiction grave à l'alcool. Bon, bah, il a un problème d'addiction grave à l'alcool, il va moins travailler, etc. Mais la femme, elle va avoir les mêmes éléments, mais en plus, elle va être stigmatisée sur sa fonction de mère, sur sa fonction de maîtresse, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de, faut vraiment multimodaliser les choses avec les patientes, et l'approche est complètement différente dans la prise en charge.
Ah bah alors justement, comment se passe la prise en charge? On imagine qu'elle survient plus tardivement, vu que les femmes ont tendance à se cacher. Ouais. Donc comment elle se passe? Il faut forcément un addictologue, un psychologue?
Bah, souvent, le classique, c'est soit elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent plus à gérer leur consommation, soit elles viennent d'elles-mêmes parce qu'il y a eu un accident de santé, ou un accident social. Soit elles sont amenées par le conjoint, soit il y a une injonction de soins, enfin, on peut tout voir en fait. Et la première étape, ben, j'ai envie de dire, ça devrait être le médecin généraliste qui pose systématiquement, et ils le font maintenant, mais il faut encore insister, mais qui pose systématiquement la question des consommations d'alcool. Il y a des petits questionnaires, il y en a dans le bouquin. Hein.
Oui, tout à la fin du bouquin.
Il y a le questionnaire FACE, par exemple, FACE, c'est un questionnaire simple qui permet de savoir où on en est avec sa consommation d'alcool et est-ce qu'il y a des problèmes. Et en fonction du score de ce questionnaire, on sait où on doit aller à peu près, voir qui. Donc médecin généraliste, si on a du mal à aller voir le médecin généraliste, parce que c'est le médecin de famille, parce qu'on ne veut pas trop, il s'occupe de toute la famille, c'est compliqué, etc., et ben on peut aller consulter dans des centres d'addictologie où on peut être accueilli par une infirmière ou un infirmier qui connaît l'addictologie, être vu après par un médecin addictologue, qui est psychiatre ou non, et mettre en place une prise en charge. Clairement, la prise en charge, elle est la même pour tout le monde, si vous voulez, pour toutes les addictions. C'est-à-dire qu'il faut construire une prise en charge avec le médecin généraliste comme acteur principal, un addictologue, une infirmière et une psychologue.
Une ancienne alcoolique, une de vos patientes, déclarait que la prise en charge des malades alcooliques fait trop peu de place à la dimension psychologique. Vous êtes d'accord?
Moi, je suis psychiatre, donc elle est prise en compte intégralement. C'est pour ça que je vous dis, dans la prise en charge, il y a un addictologue, mais il y a aussi un psychologue ou une psychologue qui intervient. Parce que si vous voulez, il y a le médecin addictologue va être pour moi le chef d'orchestre de la prise en charge, où il va agir sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment on peut changer les choses en ce moment, et on décide d'arrêter, comment on va prévenir la rechute. Le psychologue ou la psychologue, lui, il a traité les racines de l'arbre, en fait. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a chacun à son rôle dans cette prise en charge.
Et au niveau de la prise en charge de la santé mentale, que faut-il faire principalement? Gérer les troubles de l'humeur qui sont caractéristiques des personnes alcooliques, ou qu'est-ce que vous mettez en place principalement?
Sur le plan médical, il y a à la fois le problème d'addiction, donc addiction à la substance, mais on ne peut pas ne pas traiter le problème psychologique ou psychiatrique sous-jacent. Ceux qui sont très très fréquents, c'est troubles dépressifs, troubles anxieux et troubles du sommeil. Donc il faut avoir ce diagnostic-là en même temps que le diagnostic de l'addiction et le traiter en même temps.
Alors toujours, cette même patiente disait que les délais sont trop longs. Quand un malade alcoolique demande à être soigné, il ne faut pas lui dire de revenir dans 3 semaines. C'est une urgence, au même titre qu'un problème cardiaque ou un AVC. Ça arrive, ça, qu'on dise à la personne « reviens dans 3 semaines ou un mois » ?
Ça arrive si...
C'est du vécu, apparemment.
Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Ça arrive que si une région est mal dotée, si un centre est mal doté en personnel, etc., et on se bat pour ça, pour que vraiment... Mais maintenant, la biologie est très présente partout dans le territoire français, mais territoire national. Ça arrive que si la personne est prise en charge que par une seule personne. Clairement, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut multimodaliser les choses, qui est au moins un médecin et un psychologue, voire une infirmière, voire une assistante sociale s'il faut. Il y a le généraliste qui doit participer, il y a le pharmacien qui doit participer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on construit une vraie prise en charge et qui se fait sur la durée. C'est ça qui est important. Parce que désintoxiquer les gens, c'est bien, mais s'il n'y a rien derrière, ça ne sert à rien, quoi.
Docteur Laurent Carilla, on va prendre la direction de la Guinée, retrouver quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est le professeur Mamadi Mori Keïta. Bah, vous allez pouvoir lui dire en direct. Mori Keïta, qui est psychiatre addictologue à l'hôpital national Donka de Conakry. Bonjour professeur.
Bonjour l'équipe RFI Priorité Santé. Bonjour à mon cher maître docteur Laurent Carilla.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Allez, je vous laisse échanger deux secondes là. Allez-y, messieurs.
Bah oui. Bah, le professeur Mori.
Je suis très heureux de partager cette table ronde avec mon cher maître et surtout de parler de l'alcoolisme féminin avec ses caractéristiques purement africaines. Je vous remercie et je suis vraiment à votre disposition.
Eh bien, écoutez, c'est à nous de vous remercier, professeur. Justement, on va mettre les pieds dans le plat. L'alcoolisme des femmes est-il un problème de santé publique en Guinée ?
Oui, comme vous l'avez si bien dit dans vos interventions, c'est un problème de santé publique, mais qui malheureusement ne se fait pas au grand jour parce que c'est un alcoolisme dont les familles ou les communautés en ont honte et ces malades ne viennent jamais consulter seuls. Viennent toujours sous contrainte, accompagnés par la famille. Alors donc, mais dans nos statistiques hospitalières, nous constatons que c'est un réel problème de santé publique.
Et vous disiez que l'alcool est rarement évoqué comme motif de consultation, justement.
Oui, justement, c'est parce que les familles qui accompagnent généralement leurs enfants ou leurs filles pour la consultation, ou alors c'est le mari qui l'accompagne, alors on évoque rarement. On met au premier plan les problèmes psychiatriques comme la dépression. Et c'est ce qui a d'ailleurs motivé une de nos recherches tout récemment qui a pu mettre en évidence la prédominance des troubles de l'humeur. Et si vous permettez, je vais vous donner une lecture rapide de cette étude.
Mais je vous en prie, allez-y.
Alors c'est une étude rétrospective de 9 ans. On a essayé de faire à partir de nos registres de consultation en addictologie et sur 243 usagers de substances psychoactives, 13 femmes avaient un usage plutôt régulier d'alcool, parmi lesquelles, donc, elles représentaient d'abord 5,34% avec un sex ratio de 18,39 et parmi elles, il y avait 4 cas de dépendance à l'alcool, 9 cas d'abus d'alcool et sur le plan statut matrimonial, il y avait 6 célibataires, 2 veuves, 5 mariés. Sur le plan professionnel, on avait 5 ménagères, 3 étudiantes, 2 enseignantes, 2 commerçantes, une vigile et une sans emploi. Et on a constaté dans cette étude que les associations étaient nombreuses, c'est-à-dire l'association de produits. C'était constaté dans une proportion de 84,61% des cas. Il s'agissait d'une association alcool-tabac, alcool-tabac plus cannabis ou des tranquillisants comme le Valium, c'est-à-dire le diazépam, ou le Lexomil, qui est largement consommé par ce groupe de femmes. Alors, les comorbidités psychiatriques qui se cachaient derrière cet alcoolisme, c'était en premier lieu, c'était les dépressions, les troubles de l'humeur, et alors qui survenaient sur un terrain de phobie sociale, d'hystérie ou de troubles obsessionnels compulsifs. La deuxième catégorie de pathologie psychiatrique, c'était les troubles hallucinatoires, les psychoses hallucinatoires chroniques. Voilà un bref
résumé de l'étude qui ressortait. Docteur Laurent Carilla, c'est les mêmes choses qui ressortent en France ou pas?
Oui, c'est assez similaire. C'est assez similaire. On a, comme je disais tout à l'heure, c'est en termes de comorbidité, de maladies associées, il y a les troubles de l'humeur, donc avec les troubles dépressifs, et il y a des troubles anxieux. Dans les troubles anxieux, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être des crises d'angoisse qui se répètent, ça peut être des troubles anxieux généralisés, ça peut être des troubles obsessionnels, etc. Et bien sûr qu'il y a des troubles, il peut y aussi des troubles de personnalité sous-jacents. Et puis, il y a peu de variations, on va dire, de classe sociale sur les comorbidités et puis le type de maladie.
Professeur Mori Keïta, comment se passe la prise en charge en Guinée?
Ben, la prise en charge obéit aux mêmes règles, si vous voulez, les principaux disons, les principes généraux de la prise en charge en addictologie. Parce que d'abord, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, comme le disait tantôt mon maître, alors c'est-à-dire biopsychosociale, et l'objectif étant de permettre au sujet ou bien à la sujette d'avoir un fonctionnement satisfaisant sur les plans physiques, psychologiques, professionnels et sociaux, en arrêtant ou en diminuant sa consommation, et parce que nous visons un objectif de qualité de vie. Alors, ceci également est possible seulement en passant par la maturation, disons la maturation motivationnelle, parce que après une évaluation de l'alcoolisme et à partir d'une bonne observation clinique, on doit rechercher la maturation motivationnelle. Mmh. Sans elle, aucune prise en charge n'est possible. C'est-à-dire que le sujet doit reconnaître des problèmes liés à sa consommation d'alcool, reconnaître également sa responsabilité dans la consommation inadaptée d'alcool, reconnaître aussi sa dépendance à l'alcool et voir également la nécessité de changer de comportement vis-à-vis des problèmes et également la nécessité de réorganiser une vie, un projet de vie. Donc, pratiquement, nous appliquons ces règles de base pour pouvoir arriver, une fois la motivation acquise, pour arriver à un contrat thérapeutique. Et ce contrat thérapeutique est négocié d'avance avec la patiente. Et si elle est vraiment d'avis, alors on procède au sevrage, c'est-à-dire à la mise en hospitalisation. Il s'agit d'un sevrage thérapeutique. Et au cours de cette hospitalisation qui va durer une ou deux semaines, en fonction des troubles psychiatriques associés, alors nous procédons également, comme la règle générale, à une hydratation, à une consommation de 3 litres d'eau au moins par jour par cette malade, parce qu'il faut hydrater, à l'usage des benzodiazépines et l'aotal, c'est-à-dire la cambosate qu'on utilisait depuis longtemps, a été remplacé par le baclan, qui est également le baclofène que vous utilisez largement en France. Mmh.
Alors justement, attendez, je vais vous poser la question au docteur Laurent Carilla. Est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux qui marchent mieux chez les femmes? Donc, on parlait du baclofène à l'instant. Qu'en est-il?
Non, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui marche mieux en fonction des sexes. C'est plutôt, encore une fois, la construction de la prise en charge. C'est que, comme le disait le professeur, il y a le côté sevrage où on va hydrater les gens et on va lutter contre les symptômes de sevrage qui peuvent être dangereux pour la santé avec des crises d'épilepsie, avec d'autres accidents, des accidents anxieux, etc. Donc avec des benzodiazépines, c'est purement symptomatique. Et après, il va falloir traiter le fond, donc c'est-à-dire utiliser des médicaments qui peuvent aider à prévenir la rechute ou bloquer les envies de consommer. Le baclofène fait partie de l'arsenal thérapeutique et peut être utilisé, mais tout le monde n'utilise pas le baclofène, mais c'est une piste parmi d'autres.
Mais Laurent Carilla, une de vos patientes dit que l'alcoolisme est une maladie dont on ne guérit jamais. Du coup, est-ce que déjà vous partagez ce sentiment? Est-ce que les rechutes sont fréquentes généralement?
C'est plutôt... Oui, elle a raison quelque part. Mais j'ai envie de dire, le mot guérison, il faut l'utiliser différemment. Le mot guérison, il faut l'utiliser pour « mon problème est résolu ». Donc, mon problème est résolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été addict à l'alcool, je ne consomme plus d'alcool, j'arrive à être abstinent. Donc là, je peux dire que je suis guéri, si vous voulez, du problème. C'est plutôt sur cet axe-là. Mais l'addiction laisse des cicatrices au niveau du cerveau et un ancien addict reste toujours addict, si vous voulez. Il est toujours fragile. Le plus bel exemple, c'est les fumeurs de tabac qui arrêtent 20 ans et au bout de 20 ans, ils reprennent la cigarette. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et la rechute fait partie de la définition de la maladie addictive. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir aussi sur ce phénomène de rechute quand on traite les patients sur du long terme.
Professeur Mamadi Mori Keïta, très rapidement, parce que le temps passe très vite, est-ce qu'il existe des groupes de parole en Guinée, type les alcooliques anonymes, pour aider les patientes?
Non, excusez-moi, nous n'avons pas de groupe de parole mis sur place, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ajoutons régulièrement à ce traitement médicamenteux, la psychothérapie de soutien et la thérapie cognitive et comportementale qui va se maintenir sur le long terme. Mais nous avons dans nos perspectives de créer des groupes de parole pour permettre aux patientes d'échanger pour qu'elles sachent qu'elle n'est pas seule dans la situation et comment elle peut faire pour s'en sortir en prenant l'exemple sur les autres. Justement, c'est une très bonne idée que nous allons exploiter dans l'avenir.
Parce que ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien en France, docteur Laurent Carilla, non ? Les groupes de parole.
Oui, dans le traitement. Alors, donc, on a dit il y a le traitement du sevrage avec des médicaments et une approche motivationnelle. Après, il y a le traitement de la prévention de la rechute avec d'autres médicaments et de la thérapie comportementale. Il faut aller traiter les racines, donc avec plutôt une approche psychanalytique. Il y a des groupes de parole. C'est vraiment hyper important parce que ça permet de l'autosupport. Et moi, j'encourage tous les patients et les patientes à aller dans des groupes de parole. Et il y a maintenant aussi des patients experts. Donc, des patients experts, c'est d'anciens patients qui ne sont plus addicts et qui ont appris en gros la médecine des addictions et qui accompagnent aussi les gens. Donc oui, c'est un plus dans la prise en charge. Tous les groupes de parole comme Alcoolique Anonyme, comme Croix d'Or, Stop Alcool, donc il y a plein de choses comme ça.
Professeur Mamadi Mori Keïta, un dernier petit mot concernant la sensibilisation, puis après on va vous libérer. Est-ce qu'elle est efficace, cette sensibilisation en Guinée ?
Oui, voilà, c'est vraiment une grosse question parce que la sensibilisation du grand public alors pose toujours problème, d'autant plus qu'il faut beaucoup plus être en relation avec les masses médias. Mais nous essayons au maximum de contacter ces masses médias-là pour faire une sensibilisation du grand public par l'information, l'éducation et la communication. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de prévention de l'alcoolisme féminin. Parce qu'il y a un élément qu'on ne doit pas oublier en Afrique, c'est que sur le plan culturel, le statut d'une femme célibataire, par exemple, serait un facteur prédisposant, n'est-ce pas, à l'alcoolisme. Et le mariage, pour elle, constitue un facteur de protection et également un facteur valorisant en supposant que le mari peut tout faire pour elle. Donc voilà ce qui est d'ailleurs ressorti de notre étude.
Ouais.
Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte en Afrique.
Merci beaucoup. Merci, professeur Mamadi Mori Keïta. Merci également, docteur Laurent Carilla. J'avais encore tout un tas de questions, mais on arrive à notre chronique nutrition. Merci à tous les deux, messieurs, et très bonne journée à vous. À bientôt. Priorité santé, suite et fin. Nous retrouverons à présent Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète, pour la chronique nutrition. Bonjour Stéphane Besançon.
Bonjour.
Alors on le sait, notre corps a besoin d'eau, mais en quelle quantité ?
Alors l'hydratation est effectivement indispensable pour éliminer les substances toxiques du corps, mais aussi ce qu'on oublie souvent, pour réguler notre température en permettant le maintien d'une température constante à l'intérieur de l'organisme. Alors, il faut rappeler une nouvelle fois, c'est très important de redire que pour s'hydrater, il n'y a que l'eau qui est la seule boisson qui est indispensable pour le fonctionnement de notre organisme. Alors chaque jour, de manière naturelle, une grande quantité d'eau va s'échapper de notre corps, à la fois par la respiration, par la transpiration ou encore par les urines. Et donc, pour rester en bonne santé, il est très important de compenser ces pertes, sachant que notre corps va fabriquer par lui-même que très peu d'eau. Donc, il va falloir apporter de l'eau qui vient de l'extérieur. Alors, il va d'abord falloir l'apporter par notre alimentation, notamment en consommant des fruits, des légumes qui sont majoritairement composés d'eau. Et puis, ce qu'on a tous l'habitude de faire pour arriver à pleinement compenser ces pertes, c'est d'avoir une hydratation idéale en buvant à peu près 1,5 litre d'eau par jour et en buvant régulièrement tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment très important.
Et est-ce que les tisanes jouent un rôle pour notre hydratation, Stéphane ?
Oui, alors les tisanes, c'est une boisson très, c'est-à-dire sympathique, entre guillemets, pour apporter une quantité d'eau avec des goûts et des sensations agréables et variées. Alors les tisanes, elles regroupent une variété très large de préparations qui sont réalisées par soit de l'infusion, de la digestion, de la décoction ou bien par macération de feuilles, de tiges, de racines ou encore de fleurs d'un très grand nombre de végétaux. On peut citer par exemple la verveine, la camomille, la citronnelle, la menthe, le gingembre ou encore le kingeliba et le moringa qui sont très consommés en Afrique. Les tisanes présentent aussi différentes vertus pour notre santé en fonction des plantes qu'elles contiennent.
Alors, pouvez-vous nous présenter le Kinkeliba et nous dire comment il est préparé?
Alors, c'est un arbuste qui mesure entre 2 et 5 mètres et qui forme souvent des buissons. Il pousse en Afrique de l'Ouest, principalement au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Ça va être les feuilles séchées qui vont être utilisées pour préparer les tisanes de Kinkeliba, soit par infusion, soit par décoction. Alors pour la décoction, les feuilles séchées sont placées dans l'eau, puis l'ensemble est porté à ébullition pendant environ 15 à 20 minutes. Pour l'infusion, il faut d'abord faire bouillir l'eau, puis verser cette eau bouillante sur les feuilles séchées de Kinkeliba. Alors que ce soit par décoction ou par infusion, après filtration, on obtient une boisson qui peut être consommée chaude ou froide tout au long de la journée. Alors il est important de savoir pour nos éditeurs que la préparation par infusion va éviter de faire bouillir les feuilles et donc ça va permettre de préserver au maximum les substances actives dans la boisson. Alors aujourd'hui, il existe aussi de plus en plus dans tous les pays africains des possibilités d'acheter des sachets tout prêts de tisane de Kinkeliba, un peu sous la forme des petits sachets de thé qu'il n'y a plus qu'à mettre dans la tasse et mettre l'eau dessus.
Et quels sont les bénéfices de la consommation de Kinkeliba?
Alors la consommation de tisane de Kinkeliba est connue aujourd'hui pour avoir différentes propriétés positives pour notre organisme. En effet, on retrouve plusieurs substances actives dans le Kinkeliba, comme des flavonoïdes, des tanins condensés, mais aussi des alcaloïdes. Alors ces éléments vont apporter des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qui entraînent une augmentation de la sécrétion d'urine et qui vont être utilisés par exemple contre ou pour améliorer l'hypertension artérielle. Ensuite, d'autres éléments vont apporter des propriétés digestives contre la constipation, mais aussi en stimulant la fonction biliaire. Et enfin, les flavonoïdes ou d'autres produits comme les tanins condensés vont avoir un rôle anti-inflammatoire et antioxydant. Ils vont protéger nos cellules contre l'effet des radicaux libres et ainsi prévenir de nombreuses potentielles maladies comme certaines formes de cancer, les troubles cardiovasculaires ou encore certaines infections.
Et est-ce qu'il y a des risques à la consommation de Kinkeliba?
Alors comme toutes les tisanes qui contiennent des alcaloïdes, la tisane de Kinkeliba est déconseillée chez les femmes enceintes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'études concluantes sur la dangerosité de ces composés chimiques puissants, mais les autorités sanitaires recommandent par principe de précaution chez la femme enceinte pour protéger le fœtus d'éviter de consommer des produits riches en alcaloïdes. Et pour la santé, il y a un autre point qu'on a l'habitude de dire très souvent dans cette chronique, c'est que ces boissons sont dites acaloriques, c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de calories, à condition bien sûr qu'elles soient consommées sans sucre. Par contre, si on prend ces tisanes tout au long de la journée, qu'on rajoute une grande quantité de sucre, ça va entraîner une consommation de sucre en excès, donc des apports caloriques en excès, qui eux peuvent représenter un risque. Donc il est important de consommer ces boissons à volonté pour s'hydrater, mais sans sucre pour éviter un effet négatif sur la santé.
C'était la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Merci beaucoup Stéphane et bonne journée.
Merci.
C'est la fin de cette émission préparée par Assetou Samaké et Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu avec la complicité de Laurence Nau. Demain, nous parlerons des 10, dyslexie, dysphasie ou encore dyspraxie, comment les prendre en charge. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.